Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
À l'écoute sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je me trouve dans les studios en compagnie de Harold David. Bonjour.
Bonjour.
Allez, on le rappelle encore, directeur du Festival Est-Ouest Théâtre de Die. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle Danse au fil d'avril, puisque le Théâtre de Die est partenaire déjà depuis même l'année dernière, alors, il y a deux ans.
Depuis 2011, en fait. Depuis qu'on a rouvert le théâtre en 2011, effectivement, on a toujours mis en place une collaboration avec ce festival qui rayonne sur la Drôme et l'Ardèche.
Je crois que par contre, on n'en a jamais. On l'a évoqué comme ça en queue de programme à chaque fois, mais on n'a jamais vraiment expliqué ce que c'était que Danse au fil d'avril.
En fait, Danse au fil d'avril, c'est un festival qui existe depuis plus de 20 ans, je crois, parce qu'ils ont fêté, il me semble, leur 20e ou 25e anniversaire, là, ces trois dernières années. Piloté, en fait, par les fédérations d'œuvres laïques, donc éducation
FOL.
Populaire, voilà.
C'est connu comme ça.
FOL, Drôme-Ardèche, en fait, pour mettre en avant la création chorégraphique contemporaine sur l'ensemble des deux départements. Donc, c'est un festival qui réunit, du coup, des structures de programmation très, très différentes, à la fois dans leur position géographique, mais aussi dans leur taille et le type de spectacle qu'elles peuvent accueillir, puisqu'il y a aussi bien la Comédie de Valence, le théâtre de Privas, qui sont des structures relativement importantes, qui sont impliquées dans la diffusion de spectacles dans ce festival, et des petits lieux comme le théâtre de Die ou d'autres sur les deux départements. Donc en fait, c'est un festival qui se construit sur une logique de réseau, en fait, entre ces différents lieux, où chaque lieu choisit ou fait des propositions à l'intérieur d'un comité de programmation qui réunit les différents responsables des lieux. Et donc, c'est des moments d'échange, de partage entre des choses que les uns et les autres ont vues, qui circulent. Et puis du coup, au fur et à mesure que la programmation se construit, on a des tournées qui peuvent se mettre en place pour certains spectacles, certaines compagnies. Et du coup, ça donne une espèce de photographie assez intéressante de ce qui peut se faire en danse contemporaine aujourd'hui, dans la mesure où il y a aussi bien des grosses machines, des grosses compagnies chorégraphiques qui sont programmées dans ce festival, que des compagnies émergentes ou plus expérimentales, qui du coup trouvent un écho et un rayonnement sur l'ensemble du département, avec une vraie expertise et puis un vrai travail de suivi et d'accompagnement qui est mené par les FOL de Drôme-Ardèche. Donc c'est un festival un peu atypique, dans le sens où il n'y a pas vraiment une direction artistique unique avec quelqu'un qui programme des choses, mais c'est plutôt le collectif qui fait en sorte que du coup on a une programmation qui émerge sur les deux territoires.
Mais que font les FOL ? C'est-à-dire elles mettent en réseau, elles vous demandent d'adhérer.
Elles sont dans la coordination, elles sont dans la communication, elles sont dans le fait aussi d'amener des propositions, parce que les deux personnes qui s'occupent de ça, notamment Nicole Gate et Annie Sorel, vont voir énormément de choses. Donc
elles pourraient vous proposer un catalogue ou piocher, par exemple ?
Elles font des propositions, c'est pas sous forme de catalogue, mais d'accord. J'ai vu ça, je pense, parce que comme ça fait longtemps qu'elles s'occupent aussi de ce festival, elles connaissent un peu la sensibilité de chacun des directeurs des lieux, etc. Donc elles sont en capacité aussi de leur suggérer un certain nombre de choses. Donc c'est plus vraiment la coordination, la mise en œuvre de l'ensemble du festival, et effectivement de mettre les gens en réseau et de les faire travailler ensemble, ce qui est à l'échelle de ces deux territoires, enfin deux départements qui sont grands, c'est bien, quoi, parce qu'on n'a pas tant d'occasions que ça d'échanger avec nos collègues d'Ardèche ou voilà quoi.
Et alors la FOL vient vous chercher, ou alors c'est les directeurs, les organisateurs qui vont
pour ce qui nous concerne
adhérer.
Ça s'est fait de manière un peu informelle. Il se trouvait qu'on connaissait un peu les gens de la FOL pour d'autres raisons auparavant, et donc du coup quand ils ont su que l'association reprenait la gestion du théâtre, on a échangé quoi. Voilà, ils se sont dit mais ça vous intéresserait pas, mais si ça vous intéresserait, et puis voilà, de fil en aiguille on s'est inscrit dans ce dispositif. On avait avait d'ailleurs fait en 2011 vraiment un gros temps fort sur la danse avec tout un week-end avec des conférences, des projections. Parce que l'idée, c'est aussi, enfin, il y a bien sûr la programmation des spectacles dans ce festival, mais aussi ils accompagnent la mise en place d'actions culturelles, de temps de réflexion ou d'échange sur le geste de création chorégraphique aujourd'hui, avec des tables rondes, il y a des fois des expositions. Enfin, c'est un festival assez, assez complet qui permet vraiment voilà, d'avoir cette vitrine un peu de la danse contemporaine aujourd'hui.
Et puis je pense que les gens connaissent les FOL pour leur aspect pédagogique. Hein. Elles ont un certain nombre de centres de vacances, notamment qui font beaucoup de classes vertes pour ce qui est
plus
connu.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment les FOL, hein, c'est,
c'est
l'éducation populaire dans sa tradition post Seconde Guerre mondiale. Enfin, voilà, effectivement, elles font un travail important en termes de à la fois de diffusion, de sensibilisation, effectivement, d'éducation artistique, on va dire ça comme ça.
Alors pour terminer sur ce festival Danse au fil d'avril, pour qu'on comprenne encore un petit peu plus, un festival normalement, bon ben on est l'organisateur, on monte son festival, on a un budget, on sait où on va, on essaie d'attirer un public. Vous vous rassemblez tous pour que ensemble finalement ça crée un festival, mais qui va être sur plein de lieux différents. Les FOL coordonnent. Et est-ce que vous avez aussi un budget commun, une commune ?
Non, alors là, une communication commune, oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le programme de danse au fil d'avril qui répertorie toutes les propositions qui sont faites sur les deux départements, dans chacun des lieux, etc. Par contre, c'est chaque structure qui gère, comme elle le ferait hors festival, si je puis dire, l'accueil d'un spectacle dans sa programmation. Donc là, en l'occurrence, nous, on va accueillir Anne l'étoile dansante de la compagnie De Facto le 4 avril. Ça s'inscrit dans le cadre de Danse au fil d'avril, comme si on avait une sorte de label, enfin, en quelque sorte. Voilà,
Il y aurait une marque sur
ce
spectacle.
Voilà, sur ce spectacle qui est effectivement Danse au fil d'avril. Mais on l'accueille
comme
d'habitude. On est en direct avec la production du spectacle, avec son
c'est
tourneur.
C'est vous qui gérez le budget,
gère
tout
le
ça.
Budget, on a négocié ou pas le prix d'achat du spectacle, etc. Donc c'est vraiment plus une sorte de chapeau qui fédère sur un temps d'un mois à peu près effectivement différentes initiatives en matière de programmation et de diffusion de la danse contemporaine.
Et puis tu le disais si bien, finalement ce qui est intéressant principalement je pense dans ce rassemblement, c'est de vous voir tous les programmateurs, toutes les salles.
Oui, c'est régulièrement c'est le temps de travail et d'échanges qui sont importants, parce que surtout on est toujours dans cette logique d'être excentré, quoi.
J'imagine qu'au fin fond de l'Ardèche c'est pareil des fois.
Oui, probablement, on n'est pas les seuls, mais ce que je veux dire, que du coup quand s'il n'y a pas ce type d'occasion, c'est vrai qu'on croise assez rarement des gens qui font le même travail que nous sur des territoires similaires ou un peu différents, et c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges là, quoi.
Et ils vont où ces échanges? Sur la difficulté de trouver du public? Sur des problèmes matériels?
C'est variable, pas que sur des problèmes d'ailleurs, il y a aussi des points de rencontre sur des choses constructives et positives. C'est comme dans toute rencontre professionnelle, effectivement on évoque à la fois ses difficultés, ses réussites, la perspective de projet commun dans le cadre de Danse au fil d'avril ou sur d'autres choses. C'est dès qu'on se rend compte, il y a des choses qui peuvent se nouer, s'inventer. Et tant qu'on ne se rencontre pas, ça n'a pas forcément lieu d'être. Donc ça fait partie de nos métiers, quoi, aussi.
Alors on va voir peut-être bientôt des partenariats avec d'autres types des structures ailleurs en Dromardèche. On sait que vous êtes un partenaire avec la Comédie de Valence, par exemple, mais on pourrait voir une résidence jumelée entre tel ou tel type de théâtre.
Par exemple, c'est envisagé pour la saison 2014-2015, là, autour d'un artiste sur lequel on travaille, avec la Presqu'île à Annonay, par exemple. Donc vraiment Dromardèche, là, pour le coup. C'est des opportunités comme ça qui peuvent se créer.
Et on en sait un peu plus sur Danse au fil d'avril et ce réseau. On va attaquer un petit peu la programmation liée à l'événement. Tu avais commencé avec N et l'étoile filante.
L'étoile dansante.
L'étoile dansante, oh pardon.
Qui est donc une création de la compagnie De Facto, qui est dirigée par Aurélien Quérault, qui est à la fois chorégraphe et interprète. Et c'est le cas notamment dans ce spectacle, où donc c'est un solo, mais de danse dite hip-hop, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers de la danse urbaine, mais avec un sujet qui, normalement, ne croise pas vraiment les problématiques de la danse urbaine, puisqu'on est au travers de l'évocation de la figure du philosophe allemand Nietzsche. C'est-à-dire, y a une voix qui incarne la voix de Nietzsche, et aussi la figure de Nietzsche pris dans son corps immobile, en quelque sorte, puisqu'il pouvait... comment dirais-je, il ne pouvait plus se déplacer. Enfin,
il était handicapé.
D'handicap, voilà. Ouais. Tout cela est traduit avec un code chorégraphique qui est celui effectivement du hip-hop, de la danse urbaine, avec une bande-son qui mélange à la fois Wagner et puis des choses qui relèvent là aussi
des gros beats.
Des gros beats, comme tu dis. Du coup, c'est un spectacle qui est très, très émouvant parce qu'il est complètement accessible, même si on parle de Nietzsche, même si c'est vraiment un langage chorégraphique qui est immédiat, qui parle tout de suite au public de toutes les générations, de tous les âges, et qui en plus révèle une très belle émotion sur le rapport au corps, sur l'enfermement, sur comment on arrive à dépasser certaines formes justement d'enfermement physique, et comment l'esprit peut parer à ce type de choses-là. Et même si le sujet, tel que je l'exprime, semble grave, la manière dont c'est traité sur la scène est à la fois légère, ironique, ludique même parfois. Donc c'est pas du tout un spectacle plombant où on se dit qu'on va se prendre une claque
émotionnelle, intense.
Intense, oui, mais pas dans le mode tragique du terme. Quoi, voilà. Ouais. Et donc j'invite vraiment tous les auditeurs d'Erdiwa à venir découvrir ce travail-là, qui sera en plus accompagné, tout bientôt, puisque c'est le 5 avril, d'un atelier en fait, de danse urbaine pour adultes et adolescents, qui sera animé par Aurélien Quéros. Ça aura lieu au théâtre. L'idée, c'est d'initier de la danse urbaine, donc du hip-hop, etc. Et donc ça, ce sera le lendemain du spectacle, donc le 5 avril de 10h à 13h au Théâtre de Die, sachant que le spectacle, lui, est présenté le 4 avril au soir. Et on invite, bien évidemment, les gens qui voudraient participer à cet atelier de danse à venir voir le spectacle, évidemment, la veille, et puis de s'inscrire le lendemain pour l'atelier, parce qu'il y a vraiment évidemment une continuité entre les deux. Et là aussi, c'est des choses qu'on met en place de plus en plus souvent et presque systématique maintenant quand on accueille des spectacles, c'est d'arriver à faire des propositions qui émanent du spectacle et notamment qui favorisent la pratique individuelle de telle ou telle discipline. On avait ça autour de Pedro Páramo qu'on a accueilli au mois de janvier. On va avoir pas mal de rendez-vous aussi autour de Tocatram, qui est donc une création world baroque, là, plutôt en musique.
Avec une interview très bientôt.
Qui sera accueillie au mois de mai. On a aussi des petits rendez-vous avec La Dispute, qu'on va accueillir là aussi fin avril. Enfin, voilà, l'idée, c'est toujours d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des espaces de rencontres parallèles et complémentaires avec la programmation du spectacle et la venue des artistes dans notre territoire.
Histoire d'aller un peu plus loin, et d'ailleurs moi j'en place une petite pour le hip-hop, on le dit jamais assez, mais dans le hip-hop il y a énormément de musique classique, le pont a déjà été fait 1000 fois, les sujets sont traités toujours avec un message fort, parfois, absolument pas de légèreté, sauf peut-être dans le hip-hop, on va dire, un peu commercial. Mais voilà, je pense que l'association de Nietzsche et du hip-hop et de Wagner et des gros beats, c'est pas du tout quelque chose qui va choquer, en tout cas, qui ne choquerait pas le public hip-hop. Donc j'espère que les
hip-hoppers,
ils seront en tout cas, et que les autres personnes s'étonneront pas. Voilà, ça fait partie du mouvement depuis longtemps. Allez, on poursuit. Donc ça, c'était le vendredi 4 avril. C'est très bientôt, on se dépêche.
Et puis, le vendredi 11 avril, en fait, on va accueillir une création amateur, en fait, qui s'inscrit aussi dans le cadre de Danse au fil d'avril, parce que ça, j'ai oublié de le préciser quand j'ai parlé tout à l'heure de Danse au fil d'avril, qui est évidemment de présenter des projets de création professionnelle, mais justement parce que c'est éducation populaire, etc., par rapport à l'identité des fédérations, des œuvres laïques, il y a aussi tout un travail qui est fait fait pour mettre en valeur justement la pratique amateur de la danse. C'est justement dans ce cadre-là en fait qu'on va présenter donc le 11 avril à 18h30 Môme Danse, qui avec comme sous-titre de spectacle Danse avec la lumière, donc qui est un spectacle qui va réunir les grandes sections d'école maternelle de Die avec plusieurs classes concernées, celle de Karine Curcio, Désirée Curcura et Guy Lieval, qui travaillent depuis plusieurs semaines, si ce n'est
presque un an
depuis le début de l'année scolaire ouais. À la préparation de ce spectacle qui va mêler mouvement, jeu d'ombre, projection lumineuse, création musicale et sonore, tout ça donc mis en lumière par Véronique Gouga de la compagnie Ascendance.
Compagnie Ascendance qui est basée à Barnave. Cocorico.
Et pour dire aussi qu'il y a cet aspect-là dans le festival dans ce fil d'avril de valoriser évidemment la pratique amateur, et il y a d'ailleurs dans la programmation plusieurs projets qui impliquent des équipes professionnelles et des équipes amateurs, ou qui sont des créations collectives portées par des compagnies professionnelles mais qui impliquent des participants amateurs et pas du tout danseurs.
Là par exemple, dans le cadre de la compagnie Ascendance, c'est parce que la proposition de spectacle était de toute façon faite, c'est vous qui avez choisi de la placer à ce moment-là, ou alors ça tombe comme un bon hasard?
Il y a une convergence en fait de bonnes énergies
au bon moment,
c'est-à-dire que il y avait ce projet qui était en cours et dont on était au courant parce qu'on travaille régulièrement avec l'école maternelle tout au long de l'année, enfin l'école maternelle Lodi, et donc du coup on s'est dit oui, ce serait pertinent de le valoriser, de le mettre dans le cadre de Danse au fil d'avril. Donc voilà, le lien s'est fait petit à petit comme ça pour que ça puisse s'inscrire dans la programmation quoi. Voilà.
Et ben cool. Très bien.
Voilà pour Danse au fil d'avril. Donc ça c'est tout ce qu'on a début avril. Après on fait une petite pause pendant le milieu du mois d'avril, et puis on retrouvera du théâtre et de la marionnette fin avril. Voilà, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler.
Ouais, quoique quand même c'est fin avril, on peut les donner puisqu'on n'est pas loin du début. Mm-hmm. Il y a la dispute, et puis tu nous parlais tout à l'heure de autour de la dispute, ce qui allait se passer. Alors parlons de la dispute quand même.
Alors la dispute, ça, c'est un projet qui est inscrit dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la Comédie de Valence et l'ENSAT, qui est une des écoles nationales de formation aux arts du spectacle, qui est basé à Lyon, à l'ancienne rue Blanche pour ceux qui connaissent. Voilà, la mythique rue Blanche. Et en fait c'est c'est donc la pièce de Marivaux, donc théâtre classique 18e siècle, voilà, la dispute de Marivaux, mis en scène par Richard Brunel, donc qui est le directeur de la Comédie de Valence, avec la promotion en fait de l'ENSAT, puisqu'ils ont une formation pendant 3 ans à l'ENSAT, sachant qu'il y a aussi bien des formations pour les comédiens, mais aussi formation metteur en scène, formation production, formation
technicien,
etc. Et donc là, ça va être...
c'est leur spectacle de fin de promotion.
C'est leur spectacle de fin de promotion, effectivement, mais qui est un spectacle professionnel, parce que ces gens-là, ils vont être sur le marché du travail après avoir passé à dit, voilà, ils vont être en situation de travailler de manière professionnelle puisqu'ils ont achevé leur formation. Donc on n'est pas sur un spectacle de fin d'année, quoi. Voilà, c'est vraiment à l'issue de leurs 3 ans intenses de formation. Et c'est mis en scène effectivement par Richard Brunel, qui monte ça comme un spectacle. Il se trouve que la distribution sera effectivement composée exclusivement de jeunes comédiens, puisqu'ils sont forcément au début de leur parcours professionnel. Et le théâtre va être complètement chamboulé là pour l'accueil de ce spectacle, parce qu'on va pas du tout être dans la configuration que le public peut connaître avec
le gradin,
la scène, mais la Comédie de Valence arrive avec toute une structure qui a été conçue spécifiquement pour le spectacle, et qui est une structure qui va faire en sorte que, comment dirais-je, enfin, on va être plus du tout dans un rapport frontal, mais carré, enfin, avec le public mis tout autour, voilà, et l'action qui va être à 360 degrés, voilà, chercher la formule. Donc du coup, voilà,
ça plutôt dans un cirque, quoi, comme dans un...
Oui, enfin, en tout cas, dans...
Mais carré. Bon.
Voilà, dans cet esprit-là, et avec une infrastructure voilà, qui a été construite et qui va être amenée pour le spectacle, spécifiquement pour cette création.
Ils vont jouer au centre, au milieu du public, ou en fait, ça peut être aussi un peu partout, derrière, devant, au-dessus?
Ben, je ne sais pas encore, parce que le spectacle est en cours de création, bon, donc on n'a que les notes d'intention de Richard Brunel pour avoir un peu une idée de son travail, et puis aussi une connaissance de ses autres mises en scène. En tous les cas, il y a une volonté de casser le rapport traditionnel frontal dans la démarche de représentation. Et puis après, si on parle vraiment de ce texte, La dispute là, de Marivaux, alors c'est effectivement un classique, mais qui est d'une modernité absolument incroyable.
Déroutante même, je dirais.
Puisque effectivement, l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un royaume voilà, lambda. Il y a une querelle qui est là depuis toujours entre le fait de savoir qui trompe qui le premier. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Et c'est donc une dispute entre le prince, donc qui représente le pouvoir, l'incarnation du pouvoir, et puis sa maîtresse. Et donc, pour pouvoir voir ce qu'il en est, avoir vraiment une idée de qui est effectivement le plus inconstant, eh bien, il décide de faire une expérience en prenant quatre jeunes gens qui planquent dans la forêt pendant... élevés loin du monde et de toute influence venant de l'extérieur, etc. Et 18 ans plus tard, la dispute ressurgit avec un nouveau prince, fils ou héritier en tout cas du précédent, et sa fiancée, mais cette fois... Il suffit, il y a moyen de voir qui est responsable, puisque il suffit de mettre en présence ces fameux jeunes gens qui 18 ans plus tôt ont été enlevés et mis dans la forêt pour voir comment ils réagissent une fois qu'ils sont mis ensemble et est-ce que ils vont révéler effectivement qui est à l'origine de la traîtrise absolue de la trahison quoi. Ils prennent ces cobayes qui sont pris comme des cobayes et puis ils les mettent en présence et là il se passe un certain nombre de choses qui ne donnent pas tout à fait forcément les réponses attendues. C'est là toute la, l'intelligence et la perversité aussi de Marivaux qui renvoie aux profondeurs de la nature humaine et que les choses sont beaucoup moins simples qu'elles ne peuvent le paraître à l'origine.
Bon, très
donc
bien.
C'est très, très contemporain et d'une réelle actualité. Voilà.
Et alors, il y a un autour de la dispute, une série de rencontres.
Oui, alors en fait, les comédiens là, vont intervenir notamment dans l'espace public et sur le marché de Die, le mercredi, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 23 avril, pour présenter des extraits de textes de Marivaux, etc. Donc il y aura une sorte d'incursion du théâtre de Marivaux dans l'espace public et puis des temps d'échange qui sont prévus aussi avec certaines classes scolaires qui vont venir voir le spectacle, etc. Quoi. Donc il y a là aussi des temps d'échange et de rencontres.
Le théâtre, comme on dit, fermé, se transforme en théâtre de rue.
Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça.
Et puis, on y va, puisqu'il en reste plus que deux. Il y avait Le Petit Rien, donc tu disais marionnette, pour le jeune public.
Pour le jeune public, enfin, et le tout public. Oui, c'est évidemment. Visible à partir de 3 ans, mais les petits et des grands peuvent tout à fait y trouver leur plaisir. Donc ça, ce sera le 26 avril, un samedi, donc à 16h30 en matinée, avec une compagnie qu'on a déjà accueillie.
Non, en après-midi.
Qu'est-ce que j'ai dit? En matinée au sens théâtral du terme, parce que quand on parle de matinée, c'est quand on a des spectacles en matinée, c'est l'après-midi.
On apprend quelque chose.
Eh oui.
Parce que le matin, il n'y a jamais rien dans le théâtre, c'est ça? C'est la matinée, c'est l'après-midi.
Oui, ouais, enfin, mais même dans tous les théâtres, partout, quand on parle de matinée, c'est des programmations en après-midi, en fait. Alors, d'où ça vient, je n'ai pas poussé la recherche sémantique jusque-là, mais il y a sûrement une raison. Peut-être que...
Théoriquement, un théâtre pourrait aligner 3 spectacles, celui de la matinée, celui du milieu, et puis celui du fin de soirée. Oui,
tout à fait. Et voir
un quatrième
encore.
Voilà, et après on dit que les artistes ne se lèvent pas tôt. On dort jusqu'à midi et après on fait un spectacle éventuellement.
Mais donc là, en l'occurrence, ce sera en après-midi, effectivement, à 16h30, dans le cadre d'une matinée, on va dire ça comme ça, et avec une compagnie qu'on a déjà accueillie, qui s'appelle la compagnie du Jabron Rouge, qui est drômoise, puisqu'elle est basée à la Bégude de Mazin, dans le sud de Drôme, et qui propose un travail, voilà, tout à fait étonnant autour de marionnettes miniatures. Enfin, on est vraiment dans ce détail-là très précis de marionnettes, avec cette fois l'histoire donc, du petit rien, qui est le personnage principal, avec une sorte de plongée dans la façon dont un enfant différent est obligé de dépasser ses peurs, ses angoisses pour exister complètement et se trouver son identité. Donc il fait plein de rencontres avec des personnages divers et variés. Et voilà, c'est toujours un moment de grande poésie à la fois visuelle par le travail que fait Nathalie Rock, la créatrice des marionnettes, sur scène. Et puis aussi les sujets qu'elle aborde, qui sont ouais, toujours les sujets délicat, enfin, qui parle aussi à la fois aux enfants et aux adultes.
Si les marionnettes sont toutes petites, comment on les voit?
Ben en fait, c'est la façon dont elles construisent ces castelets, donc c'est-à-dire espèce de boîte en quelque sorte dans laquelle
le théâtre évolue,
le théâtre dans le théâtre, qui fait que il y a des effets de gros plans, des effets de mise à distance, et qu'on est quand même sur des jauges réduites, c'est-à-dire que voilà, on dépasse pas 80 personnes sur ce type de représentation, donc il y a une proximité forte avec le public. En l'occurrence, quand on accueille ce type de spectacle au théâtre, on met des coussins par terre, les enfants sont vraiment très proches du castelet et de la manipulation des marionnettes, donc voilà, ils arrivent à pouvoir saisir effectivement tous les détails.
Et pour finir, au mois de mai, avant le mois de la pratique amateur, Tocatram, on en a parlé plusieurs fois. Je le disais, il va y avoir une interview qui va sortir avec qui j'avais reçu, tiens. Un des Vincent, et puis la contrebasse, Sylvain. Voilà.
D'accord. Et ben voilà, il faudra les écouter sur RDIWA pour les entendre parler de leur spectacle. Ils ont fait un temps de résidence fin janvier, donc on avait fait fin janvier une présentation d'un premier temps de sortie de résidence qui avait beaucoup plu. D'ailleurs, on avait eu pas mal de monde, je crois qu'il y avait à peu près 150-180 personnes qui étaient venues voir cette sortie de résidence, qui donnait un avant-goût du spectacle final, qui mélange à la fois effectivement musique baroque au travers du clavecin et musique actuelle, enfin musique des Balkans, puisque ça réunit Violaine Cochard, qui est une claveciniste classique, et le tram des Balkans, qui fait de la pop trad inspirée d'Europe centrale et orientale. Et donc tout le travail, ça a été pour eux d'un dialogue entre leurs deux disciplines, et que le clavecin intervienne sur des morceaux où normalement il n'a pas lieu d'être en musique des Balkans, et inversement que des pièces classique du 18e, etc., soit revisité par la musique de l'Est. Et ça donne un mélange assez étonnant, puisque là, vraiment, on a pu entendre presque 20 minutes, 20-25 minutes du répertoire qu'ils étaient en train de mettre en place. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on est dans une alliance entre les deux qui marche merveilleusement, et qui est extrêmement agréable à écouter, et qui est normalement, on doit séduire aussi bien les gens qui sont plus musique classique que ceux qui sont plus trad. Enfin, une espèce de fusion qu'ils ont vraiment bien réussi à mettre en place.
Alors, il y a un instrument dont je ne me rappelle plus le nom, un instrument standard de la musique festive roumaine, une espèce de petit orgue sur lequel on tape très, très vite. Voilà.
Oui, cymbalum, oui.
Et moi, j'ai trouvé qu'on se rapprochait un peu des mélodies que fait le cymbalum normalement dans cette musique.
Oui, parce que le clavecin a un côté un peu métallique dans ses sonorités, et donc effectivement...
Après, c'est pas du tout le même son, mais dans la manière d'accompagner, voilà,
tout à fait,
ça rappelle ça aussi.
C'est pour ça, je pense, que l'articulation entre les deux fonctionne bien d'un point de vue mélodique et orchestral.
Voilà donc pour Tocatram, vendredi 16 mai, 20h. Et puis, là aussi, il y a du autour de spectacle.
Oui, en fait, ce qui...
C'est déjà tout passé.
Enfin, c'est presque tout passé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses, effectivement, qui ont été faites au moment de leur résidence, là, fin janvier. Il y a quand même donc un atelier de percussion corporelle qui a lieu donc, le 15 avril avec Mathieu Cervera, qui est le percussionniste et batteur du groupe.
Le 15 avril, contrairement à ce qui est inscrit sur le programme ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une petite coquille sur le programme. Et donc, c'est effectivement bien le 15 avril qu'a lieu cet atelier de percussion corporelle. Et puis... avant le spectacle, donc le 20 mai, il y aura aussi la restitution d'ateliers de pratiques artistiques qui ont été menés justement par Mathieu Cervera avec des classes de la cité scolaire du Diwa. Donc il y aura un temps aussi de restitution de ce travail qui a été fait là pendant le courant du, enfin depuis l'automne dernier même et le courant de ce printemps. Et donc voilà, il y aura une première partie en fait avec cette présentation d'ateliers avant le concert de Tocatram.
Alors je me permets de te corriger, c'est pas le 20 mai, mais le 16. Hein.
Qu'est-ce que j'ai dit c'est... Ah non, c'est à 20h le 16 mai, voilà, c'est ça ma confusion, 20h le 16 mai. Bon. Voilà. Et juste après le concert de Tocatram, 15 jours plus tard, donc on aura les Espiègleries qui démarreront, mais on aura l'occasion de révéler la programmation lors
voilà. On en fera une spéciale.
Une autre émission.
Et puis, on rappelle, après, c'est le mois de la pratique amateur avec des rendez-vous avec l'option cirque, la chorale des collégiens, les ateliers en fête de l'ESCDD, l'école de musique, et puis une classe du 4e du collège de 10 sur les planches. Et enfin, les ateliers de trajet spectacle et un spectacle du labo
c'est
de
ça.
Châtillon.
Tout à fait.
Eh bien, c'est super. Merci, Harold, encore pour cette présentation.
Bah,
on le redit quand même, tu étais là principalement pour nous parler de Danse au fil d'avril.
Mm-hmm.
C'est tout bientôt. Il faut
début avril, justement. Comme
voilà,
son nom
début
l'indique.
Avril. Et donc, prochain rendez-vous avec la présentation des Espiègleries.
Mm-hmm.
Harold David, merci.
Merci.
1 Terre View.
Ok, de bord.
L'interview du jour.